building. Please evacuate this building.
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
Ouais, on est foutu. T'arrives tout là-bas ou pas?
Eh hey, oh!
Voix en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Utiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent.
S'épandent et s'accroissent.
Se développent, augmentent.
Se diffuse et se propage sur le web.
Sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix...
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame.
Eh bien, salut Annette.
Bonsoir Bernard.
Oh, ça résonne bien dans ce studio. Là, je crois que on est pas mal. Voilà, ça l'arsène un petit peu parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en direct, mais on est dans une éco-hutte. Et cette éco-hutte qui a été construite par des jeunes qui venaient du monde entier en toute liberté, puisque c'était des jeunes qui sont donc de chantiers internationaux. Et cette année, Annette, qu'est-ce qu'on a eu comme surprise? Parce qu'on a des invités, on va les présenter, mais pour faire un petit résumé quand même.
Un petit résumé de l'été?
Oui, un petit résumé. On a eu quoi comme surprise dans cette éco-hutte comme jeunes internationaux qui sont venus?
On a eu alors des jeunes de plein de nationalités différentes. On a eu des Grecs, on a eu des Turcs, on a eu des Russes, on a eu des Italiens, on a eu des Africains, on a eu des Belges, des Allemands, des Français, bien sûr, quelques-uns. Voilà. Et surtout, on a eu, j'allais dire, la chance d'accueillir aussi deux jeunes migrants, mineurs. Voilà, qui ont fait partie des séjours. Et ça, je dis c'est la chance parce que ils ont apporté encore autre chose, une belle énergie et plein de choses différentes.
Voilà, donc ces éco-huttes dans lesquelles on est, eh bien, les jeunes ne sont pas arrivés par hasard parce que justement, ils ont été accompagnés par des personnes qui sont là. Alors, on les remercie parce qu'ils ont pu apporter à cette jeunesse aussi la réalité du monde d'aujourd'hui, mais surtout celle de demain, c'est-à-dire un monde plein d'espoir. Alors on va faire le tour de nos invités, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous allons parler des accueillis, moi je dis les accueillis plutôt que les migrants, et voilà, donc nous avons Eric.
Oui, bonsoir, donc moi c'est Eric, je suis d'origine camerounaise, et je vis dans la région de Marseille, et donc c'est ma première fois de vivre ici ces quelques jours dans... à base nature, dans les éco-huttes, dans un endroit merveilleux que je découvre. Vraiment, je suis très passionné par tout ce qui est économie, tout ce qui est développement durable, tout ce qui est lié à la sauvegarde des ressources de la planète. Donc, je suis très content de découvrir tout ce qui est fait ici. Et merci Bernard et merci Annette pour ce travail que vous faites.
Alors, Eric, tu as dormi dans l'éco-hutte?
Bah écoute,
depuis combien de temps tu es là?
Je suis arrivé samedi.
Ouais.
Et donc ça fait bientôt 4 jours que j'apprécie vraiment.
Alors tu sens un petit peu, il y a toutes ces petites mains qui ont fait ça, parce que faut le remercier, ces jeunes internationaux, il y a quand même un travail. Alors derrière toi par exemple, tu as ce sont des bouteilles qui ont été mises pour faire une fenêtre. Alors ça, ce sont les bouteilles, j'aime bien le dire. Il y a eu une sorte de petite concurrence entre les garçons et les filles. Alors là, tu as les bouteilles, tu vois des bouteilles de bière qui font une belle fenêtre. Et puis de l'autre côté, ils ont essayé de faire un peu pareil, c'est les garçons. C'était
pour moi, voilà, justement, c'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle précise, un schéma directeur à suivre. On laisse parler l'intuition. Et ça me renvoie un petit peu à tout ce que je connais de mon village, de mes origines, où effectivement, ce genre d'architecture existe déjà.
C'est ça, c'est souvent quand on a des Africains, ils disent « Ah, mais c'est comme chez nous !»
Exactement.
Voilà, donc on se sent bien, on se sent à la maison.
C'est ça la richesse des traditions et des cultures, vraiment. Merci de me faire découvrir ça ici chez vous.
Voilà. Et puis, t'es venu avec Françoise aussi?
Exactement.
Bonjour, moi je m'appelle donc Françoise et je fais partie d'un réseau qui s'appelle ESAI et qui sur la région grenobloise accueille des migrants. Donc on les appelle en effet les accueillis et nous on est les accueillants. Et j'ai fait à travers eux des rencontres extraordinaires et surtout j'ai touché l'incroyable douleur de leur migration. Voilà. Et ça n'a pas empêché qu'ils soient gays, qu'ils soient courageux et qu'ils soient pleins d'espoir.
Alors, on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça t'a apporté, mais je crois que ça t'a apporté beaucoup de joie.
Voilà, ça m'a apporté beaucoup de joie et ça continue puisque je continue à le faire.
D'accord. Voilà. Alors là, on a un animateur qui se cache. C'est Florent, l'animateur du chantier, donc qui a eu cette chance, peut-être ou pas, je ne sais pas, d'avoir des jeunes qui venaient du monde entier.
Ah, c'est une chance. Moi, ça fait plusieurs années que je continue à faire l'animateur ici, sur les chantiers, parce que c'est une chance, une richesse d'avoir tous ces jeunes qui viennent de partout.
Et alors, tu avais par exemple deux opposés, une Russe qui touchait la terre, c'était horrible au début, évidemment, ouais. Hein. Et un autre jeune qui venait de Guinée-Conakry, qui se régalait à étaler la terre avec application. Et puis ces deux ont travaillé ensemble, c'était assez formidable. Il y en a un qui passait la terre au début, qui était complètement dans la peur de toucher cette terre-là, c'était comme du... Hein, voilà. Et l'autre qui faisait son mieux, comme au pays, il disait.
Ouais, c'est ça qui est assez incroyable, voilà, du coup, les différences de culture, de milieu qui sont là et qui se rencontrent, et puis chacun essaye de faire de son mieux.
Et ils ont fait ce mur, finalement.
Et le mur a été construit, ouais. Ils ont fait le mur en terre, ouais.
Ok, merci Florent. Voilà. Ah oui, le micro, c'est bon.
Bon, alors, moi, je suis Michael. Je préside une association qui s'est créée sur le plateau du Vercors, là, fin 2015, qui s'appelle les Vertes Accueillants. Hein, les Vertes Accueillants étant une combinaison de Vertes Acomicoriens, qui sont les habitants du Vercors. Et bien sûr, l'accueil, au sens accueil des migrants, hein, on s'est fixé pour objectif d'accueillir, d'héberger et d'aider les migrants avec un rayon d'action sur le plateau du Vercors, initialement le Nord Vercors, et puis grâce aux connaissances qu'on a faites ici, notamment avec la base nature et Pascal qu'on va découvrir tout à l'heure, c'est étendu rapidement au sud Vercors, et je trouve que voilà, il y a une belle solidarité, et ça fait un grand moteur et une belle leçon de vie de pouvoir offrir aussi un cadre humain très chaleureux aux migrants qui ont effectivement vécu plein de choses difficiles.
Alors pour la petite histoire, le week-end, d'un coup, il y a des bénévoles comme ça qui prennent des jeunes et qui vont essayer de leur faire changer un petit peu les idées et rencontrer un peu la France finalement. Mmh, hein,
tout à fait.
Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés, nos deux migrants, donc qui étaient super accueillis ici. Voilà.
Oui, bonjour. Alors moi, je suis Nadine, je fais partie de l'association des Vertes Accueillants, mais il se trouve aussi que par le biais de mon travail, je suis également au contact de jeunes mineurs isolés qui essayent d'intégrer une formation ou en tout cas le système scolaire en France. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré notamment cette année deux jeunes qui avaient des perspectives à peu près nulles en matière de distraction pendant les mois d'été. Ils étaient hébergés dans des hôtels de la banlieue lyonnaise, sans projet, sans rien pour ces longues journées d'été très chaudes sur l'agglo lyonnaise. Ils étaient venus passer un petit week-end, ce qu'on appelle un petit week-end de répit dans le cadre de l'association des Vertes Accueillants. Lors de ce week-end-là, on s'est retrouvés sur Vassieux, sur la base nature où Bernard et Annette nous ont accueillis avec
plein de chaleur. On va faire des tutes à chaque fois qu'il y a de la pub, Annette,
hein. Non, on n'a pas le droit de censurer là, c'est pas drôle. On est tellement bien chez eux et c'est des personnes accueillantes à la puissance 10. Donc on a eu cette chance-là. Et puis à l'issue de ce petit week-end, Bernard et Annette, la base nature, nous a proposé d'essayer de faire un projet autour de l'accueil de ces deux jeunes en particulier pour qu'ils s'intègrent donc dans un camp de jeunes volontaires internationaux qui était accueilli peu de jours après. Voilà, et ce projet s'est réalisé et on reboucle ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, donc plus généralement, je dirais que effectivement, ce projet des vertes accueillants qui a lieu sur le Vercors s'inscrit dans une démarche citoyenne qui est beaucoup plus large que le territoire Vercors. En France, de plus en plus de collectifs naissent, des collectifs donc animés par des personnes citoyennes en révolte contre ce qui se passe, contre l'inaction, contre les discours qui vont pas toujours dans le bon sens de nos politiques, avec une réalité terrible qui se déroule sous nos yeux, au travers des écrans de télévision qui nous relatent ce qui se passe en Méditerranée, cette traversée terrifiante, au travers du quotidien qu'on peut croiser dans nos villes, tout simplement, quand on se balade dans toutes les agglos de France, on va constater à quel point il y a des personnes isolées ou des familles, des enfants qui errent, qui essayent de passer le temps, qui essayent de trouver une bouée de sauvetage dans ce grand marasme qui est devenu leur vie. Alors voilà, donc on je sais pas comment dire, mais à un moment donné, c'est juste plus supportable. On n'a plus qu'une envie, c'est de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est mieux quand on est plusieurs pour le faire. On est plus fort, on est plus fort quand on est plusieurs. Ça c'est une vérité toute bête, mais qui se vérifie vraiment au travers de ces actions citoyennes multiples. Voilà, donc c'est des petites gouttes d'eau, mais des petites gouttes d'eau qui s'additionnent les unes aux autres et qui font que, on l'espère en tout cas, on peut offrir un maximum de personnes en dérive portant cette longue et lourde histoire, un petit peu de réconfort, un peu d'humanité, puisque c'est peut-être et même surtout pour ça qu'on est sur Terre. Voilà.
Alors, il faut savoir, Annette, je ne sais pas si le... Il faut savoir que tous ces gens, finalement, ont été animés par cette détresse et que vous aussi, auditeurs, vous pouvez facilement adhérer, puisque finalement, on va mettre tous les liens sur... sur l'émission, donc moi je suis encore tout ému là du témoignage de Nadine, mais c'est vrai que il suffit de dire à un moment, non, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Pascal, toi on t'a rencontré pour Pascal Givert, donc on t'a rencontré parce que t'agissais sur l'Afrique justement. T'agissais avec évidemment un collectif, avec beaucoup de. Et d'un coup, tout arrive là, ici, et dis-nous tout ça un peu.
En effet, parce que ça fait un petit moment qu'on commence à brasser ensemble. Et en effet, moi, l'Afrique, en fait, et le contact que j'ai avec eux, il est de l'autre côté. Justement, dans l'idée de trouver des solutions sur place pour éviter qu'ils montent sur ces pirogues de malheur et qu'ils mettent leur vie en danger et qu'ils laissent... tout ce qui est l'essence, parce que le voyage, nous on a l'habitude, nous peuples occidentaux, de voyager facilement. Nous les visas on les a sans problème, pour traverser le monde, pour nous c'est facile. Dans l'autre sens, le voyage touristique il n'existe pas beaucoup. Voilà, et quand on va voyager c'est bien, quand on sait qu'on rentre à la maison. Là, du voyage comme ça, c'est pas une panacée. Quitter les siens, quitter ses racines, quitter ce qui fait notre vie, l'essence de notre vie, pour un temps qu'on ne sait pas si on reviendra un jour en arrière, c'est quelque chose de terrible, je pense, parce que il y a un proverbe africain qui dit coupe mes chaînes, je suis libre, coupe mes racines, je meurs. Et c'est ça. Et pour certains, ils coupent les racines parce que la plupart partent, ils savent pas s'ils vont rentrer. Et c'est vrai que donc moi, pour revenir à notre action, nous à CAPT, l'association dont je préside depuis 10 ans, en fait, on essaye modestement au sein du Sénégal, dans une région du Sénégal, au port du Sahel, de faire en sorte de donner les moyens aux enfants d'aller à l'école longtemps, de les accompagner. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis assez fier, parce que c'est pas nous qui avons sauvé le truc, c'est parce que le pays est en mouvement, et depuis 5 ans, il y a un président qui enfin s'est affranchi de... On va dire, on est là pour parler franchement, on est de s'affranchir de la France-Afrique et de la puissance coloniale derrière. Donc et Macky Sall qui quand même fait des choses aujourd'hui vraiment pour son pays, et le Sénégal aujourd'hui est un pays en marche. Et pour les gamins qui sentent aujourd'hui qu'ils peuvent apprendre et derrière ils auront peut-être un métier et ils vont pouvoir construire sur leur pays, il y a moins de départs. En tout cas au niveau du Sénégal, il y a beaucoup moins de départs. Et puis voilà, je suis résident dans le Vercors. L'Afrique, donc, ça me parle énormément. Voilà. Et puis j'ai rencontré donc Nadine et Michael et les Verts accueillants. Et donc du coup, maintenant, j'ai vu l'histoire de l'autre côté. Et forcément, ben, je suis devenu adhérent aussi de l'association. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner toute l'énergie que j'ai, enfin, si je peux en trouver encore un peu, pour les aider aussi.
Oh oui, oui, tu vas
pour
en
les
trouver.
Aider aussi dans leur mission.
Alors, n'hésitez pas entre vous de justement d'intervenir, ça nous intéresse. On se fait un petit zoufri, Annette. Un petit zouzou. Ouais, hein, histoire. Voilà. En tout cas, merci d'être là, merci d'être dans cette hutte internationale, hein, dans laquelle on va, non pas festoyer, mais par contre essayer de changer un peu les choses.
Si tu savais d'où je venais, tu me parlerais pas pour rien, tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Mais tu es un flic, hein. Triste représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien. Tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Mais tu es un flic. Affolé de bandits, de salauds, vendus, de représentants de la force publique. Tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée les pognons à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. Les peuples entiers dans la détresse, et toi tu es flic. Sois dans un flexiteur de la volonté d'autorité publique. Papier,
les armes que tu as vendu chez moi.
Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic. Les bandits, salauds, bandits, représentants de la force publique. Si tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire, tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins.
Voilà, un gamin, deux gamins. Donc on est toujours sur l'émission Accueilli, Accueillant, avec la chance ce soir d'avoir Eric, Françoise, Florent, Michael, Nadine et Pascal avec nous. Voilà, donc une émission pleine d'échanges.
Oui, tout à fait.
Alors moi, une question, peut-être comme ça, répond qui veut, qui peut. Un migrant, qu'est-ce que c'est? Quel est son parcours?
Aussi, on pouvait répondre, mais c'est...
Voilà, parce qu'il y a une peur, hein, quand même. Hein. Donc je crois que ce qu'on aimerait dire à nos auditeurs, c'est quel est l'humain? Qu'est-ce que... voilà. Quel est leur parcours? Alors, on voit des choses à la télé, des gens agrippés, des choses comme ça, et on en parlait justement avec notre ami Pénac, notre voisin, Et c'est vrai qu'on se disait, heureusement qu'il y a des gens comme vous, mais par contre, pour tout le monde, ça fait un peu peur.
Oui, alors c'est vrai qu'en même temps, il faut quand même un petit peu remonter l'histoire. Hein. Je veux dire, tous les peuples ont migré. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Voilà, hein, on le sait tous, on vient tous d'un endroit en Afrique. L'endroit n'est pas encore bien défini. Hein. Je crois qu'il y a pas mal de controverses. Mais voilà, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Et à partir de ce berceau-là, eh bien, il y a eu des migrations à travers les âges qui ont fait que les continents se sont plus ou moins tous remplis d'êtres humains. Donc nous sommes tous des migrants et nous migrons tous à des périodes de nos histoires respectives.
Alors un migrant, c'est nous.
Nous sommes migrants. D'accord. Et nous le serons probablement. Alors des migrants qui peuvent s'installer, se sédentariser pendant des périodes plus ou moins longues, mais il n'y a jamais rien d'acquis. Hein, voilà, donc moi déjà c'est quelque chose qui devrait en tout cas être en permanence dans nos esprits, c'est que les migrants d'aujourd'hui peuvent devenir des sédentaires et nous sédentaires d'aujourd'hui pouvons un jour être contraints à migrer. Voilà. D'accord. Hein?
La France, terre d'accueil ou pas ? Qui est-ce qui peut nous répondre ?
Moi j'allais réagir en disant mais vraiment bravo à Nadine, à ce qu'elle a expliqué. Mais il y a quand même une vision qui est un petit peu, on va dire, tordue, voire occultée. C'est que le migrant se voit toujours beaucoup plus de celui qui part d'un pays pauvre, du moins dit pauvre, vers un pays qui est plutôt développé et qui offre peut-être plus de possibilités économiques. Alors que la migration, comme tu l'as expliqué, effectivement, c'est quelque chose de très général, de très universel. Et c'est de ça qu'on se nourrit vraiment. Et c'est la richesse même de l'être humain. Et on ne peut pas vivre dans un monde clos, dans un monde hyper cloisonné. Et effectivement, la migration apporte une richesse énorme, une diversité. Et même nos propres gènes humains sont des gènes de migration, de mélange, d'évolution qui permet effectivement à l'espèce humaine de résister et de se perpétuer. Donc effectivement, la migration, il y a plusieurs façons de voir cette notion. On peut la voir comme étant la fuite de certains peuples pour d'autres territoires, comme étant également une course vers un mieux-être, parce que celui qui migre aujourd'hui, il peut aller pour une découverte. Et on sait que lorsque le migrant rentre chez lui, il est aussi porteur d'une richesse parce qu'il a découvert d'autres choses, il a fait des rencontres. Donc pour moi, la migration, c'est vraiment une rencontre. C'est vraiment dans le sens de l'évolution, dans le sens de la découverte. Et c'est ça que chaque peuple aspire, rencontrer d'autres pour se renouveler.
Oui, moi aussi, j'ai été migrante puisque j'ai eu la chance, il y a plus de 40 ans, de travailler au Cameroun pendant 2 ans. Et donc là-bas, j'ai été l'accueillie. Je n'étais pas l'accueillante, c'était bien intéressant. Et surtout, j'ai été incroyablement bien accueillie. Et c'est ça qui reste pour moi difficile de me dire que quand ce sont des Camerounais, puisque moi j'étais au Cameroun, qui viennent en France, c'est pas du tout pareil que quand moi, la Française, j'étais au Cameroun. Donc, et je sais ce que c'est qu'être migrant dans le sens que j'avais pas la même couleur que la majorité des gens et que c'est difficile de passer inaperçu. Quoi qu'on fasse pour essayer de se fondre dans le truc. Là, c'est une des raisons aussi qui fait que je me dis que c'est très difficile d'être migrant, même quand tout va bien, comme c'était mon cas. Parce que tout ce qu'on dit est passé au filtre de notre couleur. Et même si on a une conversation qui paraît banale, en fait, l'autre n'entend pas tout à fait ce que je dis quand je continue d'aller au Cameroun hein, et d'être accueilli. Quand moi je parle, on ne m'entend pas de la même façon, même si je dis la même chose que la personne qui est à côté de moi et qui, elle, est camerounaise.
Éric, tu confirmes ? Dans le sens contraire ? Parce que là, on passe évidemment d'une couleur à l'autre.
Oui, alors...
Non, mais ça ne se voit pas à la radio.
Ça ne se voit pas à la radio, mais entre nous, effectivement, on partage cette impression. Mais au-delà de l'épiderme, on sait qu'on a tous été plus ou moins dénaturés dans notre propre être, qui nous sommes, les êtres humains entre nous. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été stigmatisées qui concernent l'être humain. Et on voit bien que Françoise, lorsqu'elle parle de son expérience, elle est très riche, elle est très heureuse de ce qu'elle a vécu là-bas. elle pointe du doigt effectivement des divergences, elle pointe du doigt des choses qui sont parfois délicates à évoquer, mais qui ne sont pas à ignorer, mais ce n'est pas l'essentiel. Elle me le sait, puisqu'elle continue d'y aller. Et moi aussi, je suis un migrant, puisque je suis en France depuis plus de 20 ans. Et bon, peut-être j'ai eu la chance de tomber entre de bonnes mains et d'avoir fait un parcours scolaire et d'avoir un parcours professionnel qui me permet d'être plutôt, on va dire, bien accepté, bien intégré, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, ce regard-là est un regard qui est très difficile parfois au début, mais qui après, on s'en accommode et puis voilà, on fait avec, parce que quand on est animé de l'intention qu'on a, d'humanisme, des intentions de faire en sorte que notre prochain soit aussi mieux que nous, voire plus si on peut, voilà, on passe au-delà de ces clichés qui sont parfois réducteurs malheureusement, mais qui sont encore nombreux aujourd'hui dans beaucoup d'esprits. Voilà.
Alors migrant, richesse, merci Eric, hein, parce que richesse aussi, parce qu'il y a aussi du panachage, j'ai l'impression, hein, j'ai vu des enfants un peu de toutes les couleurs là ici. Je sais qu'il y a des gens aussi dans la salle qui sont aussi de différentes 10 pays, 10 nations. Donc c'est assez sympa de se dire aussi qu'il y a une richesse. Richesse d'ailleurs, Pascal, justement. Il me semblait qu'il y avait une... Dans le sens, tu disais sur d'autres émissions, d'autres moments, d'autres rencontres, tu disais ce que ça t'a apporté justement, la diversité. Je crois que c'est important par rapport à nos auditeurs, de se dire qu'on a une chance d'avoir beaucoup de gens qui arrivent chez nous.
C'est ça. Oui, la richesse de la multitude, de la différence. Moi, les premières fois où je suis allé à Djourbel, donc Djourbel, c'est une ville du Sahel que je pense pas que beaucoup d'auditeurs connaissent. C'est à 200 km de Dakar. Il y a aucun blanc qui va là-bas parce qu'il n'y a rien à voir. C'est pas au bord de la mer, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de spa, je sais pas quoi. Donc il n'y a pas de blancs qui y vont. Et pourtant, moi, la première fois que j'y suis allé, en 2007, au bout de 3 jours, j'avais l'impression de planer, d'être en apesanteur. Et ma femme, qui était à 5000 km de moi, elle ne comprenait pas au téléphone pourquoi je parlais comme ça. Elle me disait, mais t'es habité, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était juste... C'était trop d'humanité. J'étais dans un monde et j'ai écrit quelques pages en rentrant. Et j'ai écrit Djourbel, berceau de l'humanité. Je redécouvrais quelque chose, des choses essentielles de la vie que nous, on a forcément, pas qu'on les a perdues, mais que ce dans quoi on vit, tous nos critères sociaux, nos cases, voilà, notre voiture, notre maison, notre machin, notre statut professionnel.
Pascal, hein. Ça s'appelle le capitalisme.
Voilà, peut-être. nous a éloigné de tout ça, même si... ouais, c'est vrai ce que tu dis, tu parles inconvaincu, mais le truc, c'est que... Et c'est super dur pour arriver... Toi, tu t'en rends compte, tu fais des séjours, tu organises des séjours. Quand tu ramènes les jeunes ici sur des choses essentielles, avec un minimum de confort, mais par contre avec de la vie, avec l'essence, le cœur de la vie, ce qu'on a tous besoin. Au début, ils sont un peu frustrés. Ah, leur téléphone, ah, leur machin, ah, leur truc, tout ça. Mais au bout de 4 jours, en fait, ils ne veulent plus partir de la base nature. Parce qu'en fait...
Au bout de 4 jours, ils sont à Djourbel.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, parce qu'en fait, tu les ramènes à ce qui nous anime chaque être humain, mais qu'on a oublié en fait, mais parce qu'on nous l'a fait, on nous a fait croire qu'il fallait pas ça. Il y en a un qui nous a dit là, pareil, avant qu'il se présentait aux élections, nous a dit tous les jeunes devraient rêver d'être milliardaires. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Mais non, ouais. Tu rêves d'être aimé, tu rêves d'être aimé, d'être accompagné, d'être entouré de gens aimants. C'est ça dont tu dois rêver quand tu es jeune et tu as envie de vivre plein d'expériences avec plein de gens différents.
Mais pourtant, donc, les miroirs aux alouettes de chez nous, donc d'un côté aussi bien Eric, quand même les jeunes prennent le bateau et essayent de venir chez nous, ben, parce que on meurt de la faim de l'autre côté peut-être ou pas. Est-ce que c'est une vision un peu raccourcie, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe en Afrique pour être motivé à venir comme ça? Alors, et défier un petit peu?
Je pense que
c'est un envie d'aventure.
Déjà, je pense que c'est très difficile de résumer. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cas le même. D'abord, je rappelle souvent à tout le monde. Quand on fait tous ce pléonasme à un moment donné, souvent on parle, tu as fait tout à l'heure la liste, Annette, tu disais il y a un Russe, un Grec, un Turc, hein, et des Africains. Déjà, pour moi, ça ne va pas. Et je m'excuse, Annette, mais moi, j'ai un gros souci avec ça. L'Afrique, c'est 52 pays. Le Botswana, ce n'est pas le Nigeria. Le Nigeria, ce n'est pas le Sénégal. Le Sénégal, ce n'est pas la Sierra Leone.
Et combien de peuples ?
Et combien d'ethnies ? Et combien d'ethnies ? Quand tu parles, je discutais avec Ibrahim ce week-end, donc un jeune accueilli qui est guinéen. Il y a les Soso, les Malinké,
les Peuls,
les Diakatés. C'est des ethnies complètement différentes qui n'ont pas la même histoire, le même mode de vie. Donc, c'est hyper vaste, hyper multiple. Donc, en fait...
Et en plus, nous, cet été, on avait en plus des Corses. C'est pas rien, quand même. Donc, on avait aussi un autre peuple.
Pour résumer, en fait, c'est les objectifs de migration, ils sont... Les causes de migration, elles sont tellement différentes. Moi, je disais, quand je lisais la semaine dernière là, sur Le Monde, ce qui se passe en Sierra Leone, vous allez avoir de nouveau, là, ça s'appelle de la migration climatique. Forcément, ça va pas s'arrêter de pleuvoir jusqu'au mois d'octobre. C'est que le début, tout s'effondre. Ils vont aller où, ces gens, ceux qui sont pas ensevelis, quoi? Mais forcément, à un moment donné, ils vont bouger, ils vont aller chercher un endroit où c'est sec. Mais je sais pas, comme les Américains peuvent le faire, ou ceux qui fuient un certain Trump, qui vont au Canada, ils migrent aussi. Hein.
Mais est-ce que le mot, justement, fuite... par rapport à l'accueil de jeunes ou de jeunes adultes ou de jeunes que vous avez, est-ce que c'est on part par exemple, on se dit ah super, j'ai un peu d'argent, je vais au Canada, ou est-ce qu'on est dans une on préférerait rester chez soi finalement, c'est une contrainte ou pas, c'est là la question.
Bah, disons que
malgré que ce soit différentes ethnies, de groupes, de parce que quand même pour souffrir comme on souffre sur les transports, on en parlera peut-être tout à l'heure, de toute la pègre qui se met autour, etc. Il y a une motivation, mais est-ce que cette motivation, elle est, toi tu disais tout à l'heure Pascal, si j'ai bien compris, pour nos auditeurs, sur place, à Durbel, vous essayez que les jeunes aient plus d'instruction, c'est ça, pour le gouvernement sénégalais aussi, pour ne pas partir et pas épuiser ses forces vives. Donc, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe finalement ?
Bah, disons que moi, je voudrais quand même pas qu'on occulte aussi la violence politique qui peut régner dans beaucoup de pays d'Afrique liés aux affrontements entre les différentes ethnies, etc., qui sont quand même, en tout cas, pour ce qui concerne le continent africain et puis également tout ce qu'on sait sur la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, etc., bon, c'est quand même des états de guerre qui vont être à l'origine de ces fuites pour essayer de trouver des endroits un tout petit peu plus calmes, moins dangereux pour survivre. Hein, donc ça, c'est quand même une motivation, une grosse motivation et une grosse partie des personnes qui migrent, personnes de tous âges d'ailleurs. C'est souvent des jeunes garçons, souvent, mais il y a également des jeunes filles et des moins jeunes et des familles qui migrent pour essayer de trouver un endroit sur la planète où ils vont pouvoir se poser en relative sécurité. Ça, c'est, il ne faut pas l'occulter. Donc, ces personnes-là, notamment, relèvent complètement de ce qu'on appelle le droit d'asile. Hein, donc, dans nos pays qui se disent éclairés, donc répondant aux critères d'une convention qui est la Convention de Genève et qui doit normalement apporter protection à ces déracinés pour cause de conflits d'origine politique, religieuse, ethnique ou culturelle. Et c'est quand même une certaine partie des jeunes que nous accueillons, notamment en ce moment sur le Vercors. Qui se retrouvent là parce que dans leur pays c'est la guerre, parce que leur ethnie est persécutée par le régime en place. J'ai le cas là qui me revient d'un jeune qu'on accueille actuellement, qui fait partie d'une ethnie minoritaire en Éthiopie et qui s'est trouvé engagé dans des mouvements lycéens pour s'opposer à des mesures gouvernementales qui visaient à réquisitionner les terres agricoles de cette ethnie minoritaire dont il fait partie. Et de fil en aiguille, les choses se sont détériorées, la répression a été sanglante Et ce jeune, à deux reprises, bon, s'est fait arrêter une première fois. La deuxième fois, ça a tellement chauffé qu'il a fallu qu'il s'enfuit. Sa famille a payé des passeurs pour qu'il puisse aller se mettre en sécurité. Et il sait pertinemment qu'il ne peut pas remettre les pieds en Éthiopie avant longtemps. Voilà.
Est-ce que l'on peut comparer... Pardon, excuse-moi. Eric, oui.
Oui, je voulais juste rajouter, bon, sans vouloir forcément parler au nom de tous les migrants ou tous les réfugiés, c'est vrai que s'il fallait aborder le sujet, ça demanderait beaucoup de temps à débattre et à approfondir. Mais effectivement, cette histoire de migration, depuis la nuit des temps, on sait que les hommes migrent. On en a parlé au début. Et l'Afrique a connu des vagues vraiment exponentielles de migration, souvent forcées à l'époque de la crête négrière. Et cette force vive a toujours été considérée par les puissants comme une source d'énergie colossale pour pouvoir entretenir les économies occidentales. Et donc, même dans le schéma des pensées des enfants, très jeunes, on les inculque que l'Occident est l'alpha et l'oméga. Très peu de choses sont valorisées au niveau des cultures locales quand ce n'est pas complètement déprécié, voire oui, complètement piétiné. Donc les jeunes n'ont de repères psychiques, philosophiques, intellectuels que l'Occident.
C'est vrai qu'il y avait un président de la République qui a dit vous rentrez dans l'histoire, il me semble.
Voilà.
L'Afrique, il venait juste de rentrer dans l'histoire.
Voilà. Donc nos propres cultures, nos propres savoirs, nos propres connaissances ont été complètement laminées, écrasées, piétinées, négligées. Et donc effectivement, tout un pan de la jeunesse ne rêve que d'aller en Europe. Même moi qui suis ici, j'ai eu ce rêve très jeune parce que mes parents considéraient qu'il fallait aller en Europe pour acquérir un savoir, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui est tout à fait normal puisque depuis l'Antiquité, on va s'enrichir vers d'autres peuples, acquérir la connaissance, que ce soit en Grèce, en Égypte, par le passé. Donc, c'est tout à fait normal. Mais le péril de l'Afrique, c'est de faire ce schéma sans revenir en arrière pour pouvoir reconstituer l'énergie qui a été complètement vampirisée. Donc, c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, s'il fallait parler s'il fallait avoir un regard critique et objectif, c'est qu'il n'y a pas de mal à aller vers quelque part. C'est comment on fait en sorte de revenir en arrière avec la connaissance, la somme de savoir qu'on a pu confronter, acquérir, pour permettre aussi à ces jeunes de ne plus y retourner dans ce péril, au péril de leur vie, j'allais dire, parce que traverser la Méditerranée avec les moyens qu'on connaît, c'est plus que l'inconscience, on ne sait pas comment qualifier ça, parce qu'il y a des vidéos, il y a des images qui montrent des scènes vraiment tragiques, inqualifiables, mais ça n'empêche pas les gens de continuer à y aller. Donc il y a un truc qui est profond. On ne peut pas juste s'arrêter à dire qu'il faut sensibiliser. Il y a quelque chose qui est plus important à creuser pour comprendre comment limiter, voire arrêter, puisque arrêter c'est aussi une illusion, mais comment limiter au maximum l'hégémonie des forces vives des Africains qui partent dans vers ces pays-là. Voilà. Donc il y a des raisons climatiques, il y a des raisons politiques, il y a des raisons économiques, mais toutes ces raisons ne permettent pas à l'Afrique de s'en sortir. Parce que le but de chaque civilisation, c'est de pouvoir se ressourcer, se renouveler et continuer à prospérer.
C'est-à-dire que de rêver comme ça, d'ailleurs, c'est aussi rêver, c'est vivre des grandes frustrations, peut-être aussi.
Alors,
c'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne croit pas, on se dit qu'on n'a pas. Enfin, je veux dire, ailleurs, ça sera mieux. Donc, il y a une l'âne qui va brouter un peu ailleurs.
C'est ce qu'on croit toujours, que l'herbe est plus verte que chez le voisin. C'est ce qu'on pense toujours. Mais nous, on a. Voilà, ça génère forcément des frustrations, puisque moi qui vous parle, ici à cette radio, j'avais le rêve de rentrer. Ce rêve s'est plus ou moins. Changé, a évolué, s'est différé, s'est transformé, parce qu'effectivement, on ne trouve pas sur place toutes les solutions, toutes les possibilités, la place qu'on pourrait avoir pour être reçu correctement. Et aussi parce qu'il y a des illusions, des préjugés qui ont été inculqués dans la tête de certains gouvernants et certaines classes politiques qui même parfois empêchent ces migrants, ces expatriés, j'allais dire plus tôt, qui voudraient rentrer plutôt chez eux.
Et oui, donc le rêve de déstabiliser la situation par leur expérience.
Exactement. Donc moi, je suis plutôt sensible aujourd'hui pour toutes les tendances qui visent à encourager le retour, qui vise à créer une sorte de pacification entre les différents peuples, parce qu'il y a du bon en Europe, mais il y a aussi du très bon en Afrique. Donc c'est arriver à cette convergence
pour qu'effectivement il y ait une, pour diluer cette tension qu'on sent de plus en plus grandissante dans les différents peuples, alors que ces peuples ne sont pour rien. Ce n'est que la machine, tout à l'heure tu l'as dit, Bernard, capitalistique, hein, qui ouais. encourage ces genres de phénomènes, où effectivement on sait que ces jeunes, quand ils migrent, leurs forces sont tirées, sont sucées, on peut le dire comme ça. Effectivement, on est vidé en Afrique. Donc il faut travailler plutôt dans cette dynamique de retour, de recyclage, d'échange, pour permettre effectivement de diminuer les tensions entre les peuples, parce qu'on est au bord d'un affrontement très important, de plus en plus. On sent qu'on peut basculer rapidement. Donc effectivement, il faudrait encourager ce genre d'initiative.
Mmh. Michael, tu voulais rajouter quelque chose ? Je t'ai vu prendre le micro, c'est pour ça que je vois d'un œil de l'autre côté. En tout cas, merci pour ce témoignage qui est poignant. Est-ce que vous avez des choses à peut-être à
Je pense
dire
que, enfin, je trouve qu'Eric a bien résumé les choses. D'une manière générale, il est évident, mais bon, manifestement tout le monde ne l'a pas compris, que ce n'est pas des murs qui vont empêcher les problèmes liés à la migration, mais bien les raisons qui font qu'un jour les gens n'auront plus besoin de quitter leur pays.
Ça dépend, ceux qui font du ciment, ils sont contents.
Oui, mais voilà, mais ce serait bien qu'un jour, en Afrique ou ailleurs dans le monde, hein, on a fait déjà une liste qui dépasse l'Afrique, des pays où les gens ont des raisons aujourd'hui de quitter leur pays. Et on espère qu'un jour tous ces gens viendront juste en touriste en France, mais vraiment pour visiter la France ou d'autres pays pour ces raisons-là. Donc là on dit des évidences, mais c'est vrai que des fois ça fait du bien de le rappeler. Moi ce qui me frappe toujours, c'est de voir effectivement, quand je parle avec les personnes qu'on accueille, qu'on héberge, personne n'est parti de gaieté de cœur.
C'est ça.
Tous ont risqué leur vie. À quelques exceptions près, ils ont tous vraiment risqué de se noyer, donc ils ne sont pas partis pour le simple plaisir de découvrir la France. Et ce qui me frappe toujours, c'est le sourire, enfin, c'est la leçon de vie qu'on peut tirer de ces rencontres. Comment dire, quand on arrive à vous dire merci, quand je vois comment on les traite en France et en Europe, je suis toujours épaté de voir que ces gens-là gardent un optimisme fou et une volonté pour la plupart de rentrer chez eux. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de la migration vue de l'Europe. Il ne faut pas oublier aussi qu'en Afrique, entre pays africains, il y a énormément de migration. Et le pays dont Pascal parlait tout à l'heure, le Sénégal, fait partie des pays, si j'ai bien compris,
qui
accueille beaucoup d'Africains entre eux. Donc bon, ça c'est quelque chose
qu'on
voit pas trop chez nous. Mais
beaucoup, voilà. beaucoup de Guinéens, de peuples guinéens qui viennent sur le Sénégal. Le Sénégal est un pays d'accueil qui est un pays... Oui, généreux, où les gens sont bons, c'est pas violent du tout, les gens se sentent en paix. Quand il y a eu le coup d'état raté de janvier en Gambie, nous on y est allé donc cette année au Sénégal, on est arrivé juste un peu après, c'était en train de se résoudre l'histoire, mais tous les Gambiens, avaient plein de Gambiens qui avaient peur de comment ça allait tourner, avaient passé la frontière de l'autre côté. Et moi, j'en ai discuté avec Marem, qui est une de les membres de l'association, une qui est comme ma sœur là-bas. Et il lui a dit, Marem, mais comment ça se passait? Les Gambiens, ils étaient parqués. Mais il y avait un Gambien dans chaque famille. Il n'y a pas de problème de migrants. Il y a de la place dans les maisons. Donc il y avait un Gambien. Tous les Gambiens qui ont passé la frontière, ils avaient tous un toit, ils avaient tous du riz à table à manger. Il n'y a pas de problème de migrants, quoi. Il n'y a pas besoin.
C'est juste pour peut-être compléter ce que dit Pascal, c'est vrai qu'il y a une hypertrophie de regarder la migration avec l'œil européen. Comme tu l'as dit, Michael, l'Afrique est le premier continent à accueillir ses propres migrants. Je prends le cas du Cameroun. Le Cameroun a subi indirectement plusieurs conflits. Le conflit du Tchad, le conflit de la RCA, Centrafrique. Le Cameroun a accueilli plus de 500 000 immigrés centrafricains, a accueilli plus de 200 000 immigrés tchadiens, parce que les guerres, parce que les conflits faisaient que c'est plus facile de traverser la frontière. Il y a juste un lac entre le Cameroun et le Tchad, que de prendre l'avion ou un bateau pour aller en Europe. Donc cette migration-là, cet accueil-là, il est peu valorisé, il est peu mis sur la table pour expliquer que c'est vraiment parce que les gens n'ont plus le choix. Mais aussi, surtout, pour deux raisons dont on n'en parle pas souvent. La principale raison, c'est qu'effectivement, je l'ai dit un petit peu, c'est cette vision débridée de présenter l'Occident comme étant l'Eldorado et l'Alpha l'Oméga, qui fait croire aux gens qu'il faut aller en Europe pour réussir. Mais aussi, il y a une dimension économique derrière cette migration, avec des profits de tout genre, dont on parle très peu, qui est devenu un vrai marché humain, il faut dire ce qu'il en est. Ce n'est plus l'esclavage des temps anciens où effectivement il y avait le pauvre noir attaché, forcé, contraint par tous les moyens. Là, le migrant se fait proprement, se fait son propre esclavage lui-même. C'est-à-dire qu'il s'engage dans un schéma d'esclavage volontaire, quelque part. Mais parce que derrière, il y a tout un circuit, il y a un parcours balisé avec des responsabilités qui sont identifiées, des acteurs qui gagnent beaucoup d'argent dans ce trafic-là, et qui est pas du moins du tout exposé, et qui est une réalité aujourd'hui. Parce que les passeurs, ils y gagnent, parce que les familles espèrent que les enfants qui partiront là-bas trouveront effectivement quelque chose de meilleur qu'en Afrique, et dont sont encouragés, voire parfois très très bien persuadés d'y aller, parce que derrière, il y a un gain économique. Et ça, c'est aussi les deux, sinon les trois raisons qui justifient aujourd'hui cette migration et qui est la plus médiatisée, alors que la migration interafricaine est très importante.
Il y a eu un grand passage,
Pascal.
Un grand changement à partir de 2011 et de la chute de Kadhafi. Il faut savoir qu'en Libye, la Libye était pour beaucoup d'Africains, de subsahariens, soudanais, nigériens, c'était une destination, comme disait, économique, parce qu'il y avait du travail. Parce que le Libyen, en fait, pour faire ses routes, pour les poubelles, pour ramasser les poubelles, pour machin, tous ces travaux-là, il ne veut pas le faire. Il n'avait pas besoin parce qu'ils avaient une rente de l'État. Tous les Libyens avaient une rente de l'État et donc ils n'avaient pas besoin de faire certains travaux. Et donc, il y avait toute cette migration-là, de toute cette main-d'œuvre pas chère donc, de ces pays qui venaient. Et la destination, c'était la Libye. Et quand, donc après la chute de Kadhafi, d'un coup c'est devenu un peu le Bronx, pour dire, voilà, c'est le chaos en Libye. Et là, toutes les filières se sont mises en route avec donc des situations très précaires, très dangereuses, avec des gangs. Les gens qui nous racontent ce qu'on croise là, nous, avec les verts accueillants, quand on commence un peu à... Mais donc, ils sont restés 2 mois ou 3 mois. Ils avaient peur la nuit, ils avaient peur même de s'endormir parce que, donc, il faut savoir qu'il y en a qui se font, alors qu'ils ont déjà payé le passeur, qui ensuite se font capturer par des gangs, mis en tôle de façon comme ça, pour rançonner encore les familles. On les torture en direct, au téléphone, et ils appellent les familles et pour avoir encore une rançon à payer pour les libérer. C'est des trucs, c'est comme tu disais, l'esclavage moderne, et aujourd'hui en Libye, et donc c'est là que ça a accéléré le processus de traverser, dire bon, on ne peut pas rentrer, on n'a pas suffisamment de sous pour entrer dans la famille et tout ça, donc le retour n'est pas encore possible, donc c'est la fuite un peu plus haut, et certains, c'est là que les bateaux se sont mis à s'empiler les uns sur les autres pour Lampedusa, quoi.
Alors, nous allons faire quand même une petite pause musicale pour nos auditeurs, parce que quand même, il faut qu'ils respirent un peu. Et Eric nous avait choisi une très très belle chanson qui m'a dit un peu douce. Donc voilà, devant tous ces faits de notre petite planète. Annette, on est bien sur Voix en Expansion. Et quelle expansion ?
Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat. La vie, je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit par de m'étonner. Balayer, 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 laisser ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle aime bien la divine amie, des visages et des souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle aime bien la divine amie, des visages et des souris. Une un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né avant cet enfant nouveau-né. Balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens en paix, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous sourires.
Voix en expansion, donc accueillie, accueillant. Toujours avec nos super invités, une émission riche d'échanges avec Eric, Françoise, Florent, Michael, Nadine, Pascal et Lydia, qu'il ne faut pas oublier, hein, qui est dans l'ombre mais qui est toujours présente et très active.
Alors Annette, tu as parlé de super invités, êtes-vous des super héros quand vous accueillez des gens, Françoise?
Ah non, pas du tout.
Vous êtes, non, vous n'êtes pas des super-héros? Parce que quand même, tu disais, tu ouvres tes femmes seules, là, et d'un coup, tu as un homme noir qui vient chez toi, et tu le laisses à côté dans ta chambre, mais il faut quand même être blindé.
Arrête,
tu fais du karaté ou quoi?
Arrête un peu tes fantasmes.
Ah, voilà, parce que quand même, t'es super-héros ou pas?
Non, non, pas du tout.
Ah bon?
Non, parce que quand j'ai été accueilli là-bas, j'ai pas eu l'impression que les gens qui m'accueillaient étaient des super-héros, donc...
On est tous capables, tu dis.
On est tous capables. C'est vrai, on en a parlé tout à l'heure au début, je ne sais plus, peut-être toi Nadine, qu'il y a des peurs. Mais je pense qu'on peut avoir peur de son voisin. Moi j'ai un voisin, tu vois, qui me fait un peu peur, un voisin bien français. Lui il me fait peur, parce que je me dis un jour, cette andouille, il pourrait me dénoncer. D'accueillir des gens sans papier. Lui il me fait peur.
Ça nous rappelle des choses, voilà, en Vercors.
Ouais, j'allais dire, ouais, ça nous rappelle des choses.
Parce que tu vois, voilà, on parlait de migration. Moi un je pensais tout à l'heure à des migrations
parce
toutes
que,
simples.
Parce que ce n'est pas autorisé d'accueillir des gens
sans papier, non.
D'accord.
Voilà.
La petite relation avec l'État.
Il y a le fameux délit de solidarité.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors, c'est pas très clair.
C'est pas très clair. Mais enfin, il y a quand même globalement... des gens.
Non, mais il y a des gens qui
des gens
ça n'aide pas à accueillir,
voilà.
Disons.
Il y a des gens qui ont peur
ça
de
peut,
ça.
Ça peut repousser.
Et tu vois, moi, ça me rappelle une autre migration. C'était celle de mes grands-parents, quand ils ont été chassés du nord de la France par l'arrivée des nazis. Et qu'ils sont arrivés à Nîmes. Et qui faisaient vachement la trouille aux gens. Parce que le Nîmois est petit, trapu et brun. Et mes grands-parents, ils étaient grands et blonds. Donc, la trouille de celui qui n'est pas tout à fait pareil, ça, c'est pas vraiment nouveau. Et comme en plus, bêtement, ils étaient blonds, est-ce que par hasard, ça ne serait pas des Allemands déguisés, tu vois? Donc, et à Nîmes, ils ont eu des gens qui ont été très méchants avec eux et d'autres qui les ont super bien accueillis. Mmh. Et ces gens qui les ont super bien accueillis, comme par hasard, ils avaient aussi accueilli des Juifs, tu vois?
D'accord.
Donc, je crois qu'il n'y a pas de héros, mais qu'il y a juste des gens qui ont moins peur que d'autres.
D'accord.
Puis il y a des gens qui sont un petit peu comme moi, peut-être.
Alors,
hein, voilà.
Si
je je rajouterais aussi des gens plus curieux que d'autres aussi.
Oui.
C'est-à-dire que la peur, elle peut être tapie en chacun de nous, mais quand la curiosité est plus grande que la peur, à ce moment-là, il se passe de jolies choses. Donc voilà, je crois qu'il faut.
Mais tu le disais tout à l'heure, un matin, où je ne sais plus comment tu avais tourné la phrase, tu disais d'être spectateur un petit peu de toute cette misère de gens qui se noient et autres. Tu dis non, c'est pas possible, il faut agir. Alors, si de nos auditeurs ont envie d'agir, bon, c'est sûr qu'il sait bien quand on est accompagné, tu le disais, quand on est plusieurs. Donc là, on va trouver les liens sur Internet, mais c'est à la portée de tous finalement.
Mais de toute façon, il y a des collectifs qui se créent vraiment, et puis très, très, très fréquemment. Là, cet été, dans la vallée de l'Isère, il s'est créé, je crois, un collectif sur Vinay ou à côté, sur Tulin. Voilà. Enfin,
il y en a un autre qui s'est créé à Mince.
Ah mince,
voilà,
oh bah,
y en a partout qui se créent. Oui, ouais. Non, mais il y en a un qui s'est renouvelé.
D'accord.
Et qui est en train de s'occuper vraiment d'accueillir chez soi. Parce que pour le moment, ils accueillaient dans un lieu public.
D'accord.
Et maintenant, ils accueillent chez eux parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de danger, quoi.
Bien sûr, voilà, mais il y a différents
types. Pour répondre à ce que tu disais, tu vois, voilà.
Et ce qui est très, très important aussi, c'est ces liens entre les différents collectifs et les différentes associations. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres régions de France, mais autour de Grenoble, il y a vraiment des choses importantes. Il y a des associations qui sont vraiment installées, très efficaces et qui œuvrent depuis de longues années autour de l'accueil des personnes en migration. Mais depuis assez peu de temps, hein, c'est assez récent, depuis 2-3 ans, les collectifs ou les associations de citoyens, comme j'en parlais tout à l'heure, se multiplient, mais il y a du lien qui se crée entre nous, il y a des échanges, notamment avec le réseau Esaïe, voilà, hein, ouais. tout bêtement.
Oui, je vais parler du réseau Esaïe.
Voilà, ou ouais. Avec les Vertes Accueillants, il y a notamment un jeune qui est...
Qui est passé de chez moi à chez toi.
Oui, voilà. Et puis qui va repasser probablement rapidement.
Voilà, ici, il y a des échanges.
Des échanges.
Voilà.
Voilà. Alors, via le Vertes.
On n'a pas trop le temps, mais c'est vrai que depuis très longtemps, on avait fait aussi une petite émission avec des textes de Daniel Pénac sur la CIM, qui était, il était à la CIMAD, tu disais.
Oui, donc, la CIMAD, Esaïe est une émanation de la CIMAD.
D'accord. Voilà. Donc, nos auditeurs, on va mettre les liens de la CIMAD, puisque c'est vrai que c'est une base de très très longtemps, donc de très longue date, après-guerre. Voilà, pour faciliter justement... les gens qui n'ont pas de papier et aider. Donc là, je pense que ça doit répartir un petit peu dans les réseaux. Hein. Mmh. À partir de là, je pense qu'on doit pouvoir... Il n'y a pas une fédération, mais je veux dire, il y a une sorte de collectif national. Peut-être qu'on pourra mettre aussi en lien.
Bon, il y a le collectif Migrants en Isère hein,
qui regroupe pas mal de
collectifs. Et
alors attention, parce que nous sommes écoutés dans toute la France.
Tout à fait. Enfin...
Dans le monde entier. Alors, est-ce qu'il y a une... Si quelqu'un... Est-ce qu'il y a une adresse? Parce que je ne sais pas si on va à la préfecture. Tout à l'heure, on disait tout à l'heure, ce n'était pas vraiment clair le statut, etc. Si on va à la préfecture, ce n'est peut-être pas là où on aura vraiment les choses. Quelle est l'adresse? Il y a la CIMAD et quelles sont l'adresse nationale qui permettra peut-être à des gens de dire « j'ai envie de rejoindre quelqu'un, j'ai envie d'aider aussi ».
National, je ne saurais pas dire, mais certainement,
on va trouver
certainement
ça.
Des associations qui ont un positionnement national comme la CIMAD, sont certainement des relais auprès desquels on peut trouver ces informations.
C'est-à-dire que si tu es dans une région où il n'y a pas par exemple Esaïe,
ouais.
La CIMAD va te dire mais il y a autre.
D'accord. Voilà, donc la CIMAD c'était d'abord des vocations protestantes, on peut le dire.
Au départ oui, c'était voilà. des protestants, c'était des femmes d'ailleurs, faut le dire. Mmh,
aussi. Ouais.
Qui avaient commencé à cacher des juifs et qui ont pensé que de tout temps il y avait eu des gens qu'il fallait cacher parce que à cause de leur appartenance, quelle qu'elle soit, ils étaient en danger. Ça a été ça le démarrage. Et puis ça a beaucoup été importé en France. Enfin, ça a été très bien accueilli en France, y compris quand même par les gouvernements, puisque c'est la CIMAD qui a le droit d'entrer dans les centres de rétention. Hein, c'est un des rares organismes qui est autorisé par l'État à entrer dans les centres de rétention, parce qu'il faut savoir que quand on n'a pas de papier, on peut être traité comme un criminel et jeté en prison en France. D'accord. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, nous, on ne risque pas grand-chose, mais eux, énormément. On en a un là qui...
Donc,
qui
l'objectif, donc, c'est d'arriver à aussi d'un côté administratif, à les aider pour les papiers, c'est ça? Il y a une volonté associative là-dessus.
Par exemple, la CIMAD a des avocats. Et d'accord. Nous, les AI, on fait appel aux avocats de la CIMAD.
Alors, au niveau des Vertes Accueillants, on s'est fixé pour objectif de justement pas trop aider côté papier, parce qu'il y a des associations professionnelles et il y a un savoir-faire. Hein. Il faut connaître quand même vraiment
d'accord.
Les choses. On peut faire des erreurs. Nous, c'est plutôt la chaleur humaine, un toit avant tout,
d'accord.
De l'accompagnement, du français, enfin des choses simples qu'on peut faire. Il y a plein de gens qui ont besoin d'apprendre du français pour mieux s'intégrer. C'est quand même la base de l'intégration hein, dans la société française, en tout cas ici en France. Voilà, donc nous, c'est l'accompagnement humain et un toit. Voilà.
Et Esaïe, c'est la même chose, c'est un toit d'abord. L'idée, c'est qu'il y ait de moins en moins de gens seuls dans la rue, hein, qui dorment dans la rue. Voilà. D'accord. Donc les gens qu'on reçoit, c'est des gens qui sortent de la rue.
Bon. Alors on va mettre tout ça sur notre petit réseau internet. Alors sachez que ça va se diffuser, tout le monde diffuse. Si vous avez été sensible par cette émission, eh bien, n'hésitez pas donc, à la partager, puisque c'est l'objectif. On remercie Radio Royan et Radio Diwa surtout, hein, parce que c'est vrai que ça part de là, avec notre ami Baptiste qui va faire le nécessaire pour que tout ça soit audible et aussi vu par tous. On vous recontactera, je pense, nos amis qui aident les migrants, donc les amis accueillants et qui aident les accueillis. On vous recontactera, c'est sûr, pour d'autres émissions. En tout cas, merci à vous et merci à tous de cette écoute. À très bientôt, on va lâcher tout ça parce que c'est vrai qu'on a un planning d'une heure et Annette, elle en peut plus là. Elle dit, c'est bon, on dépasse. Ciao, ciao.
Ouvrez les frontières.
Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. Que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Oh. Y'a plus une goutte d'eau pour remplir notre sort. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits, en levant très vite sur le chemin du...